L'évangile de Jean, chapitre 6. Nous sommes toujours à la découverte de Jésus. Depuis un certain temps maintenant, dans cet évangile de Jean, nous découvrons, peut-être redécouvrons, Jésus. Et nous avons pris un peu pour thème, pour verset guide à travers cette étude, tout à la fin de l'évangile, dans le chapitre 21, Jean dit « Je vous ai écrit ces choses », donc tout son livre, justement pour que vous sachiez que Jésus est le Fils de Dieu. Donc il est Fils de Dieu, il est Dieu lui-même. Que vous sachiez, que vous ayez la certitude qu'il est le Fils de Dieu et que, en croyant en son nom, vous ayez la vie. Et tout dans cet évangile de Jean, si vous êtes là depuis plusieurs semaines, vous le savez, va dans ce sens. Tout ce que Jean a choisi de mettre par écrit va dans ce sens de nous affirmer, de nous convaincre que Jésus, il est Dieu. Et que c'est à travers lui que nous avons la vie. La vie éternelle, un jour avec Dieu, gloire à Dieu, mais aussi la vie sur cette terre. C'est dans l'évangile de Jean où Jésus va dire ces mots, « Je donne la vie à mes brebis, la vie en abondance. Je suis venu pour qu'elles aient la vie abondante. » Et dans le chapitre 6, il y a plusieurs miracles de la part de Jésus qui vont confirmer qu'il est Dieu. La semaine dernière, nous en avons vu un, où avec quelques pains, quelques poissons, il a nourri 5000 personnes. Qu'est-ce que le gouvernement français serait content d'avoir cette capacité, n'est-ce pas? Alors, quelques pains, quelques poissons, et là, on nourrit une foule. Jésus pouvait le faire parce qu'il est Dieu. Il accomplit un miracle, il pourvoit aux besoins, même matériel, même physique de ces personnes. Et aujourd'hui, à partir de verset 14 et allant jusqu'au verset 21, nous allons voir que Jésus, parce qu'il est Dieu, parce qu'il nous connaît, parce qu'il pense à nous, parce qu'il prête attention aux circonstances par lesquelles nous passons, Jésus est là au bon endroit, au bon moment. Au bon endroit, au bon moment. Alors, suivez avec moi, je vais faire la lecture de ces quelques versets. Jean, chapitre 6, à partir de verset 14 jusqu'au verset 21. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaüm. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades et s'approchant de là-bas, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Et ils eurent peur. Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulaient donc le prendre dans la barque et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Alors prions pour remettre ces moments entre les mains de Dieu. Oui Seigneur, nous te remercions que tu nous laisses ces récits, que tu nous montres avec clarté, avec vérité, qui tu es, afin de nous aider aujourd'hui. Merci pour ton exemple, merci pour ta vie, merci pour ta parole, merci pour ces moments que nous passons ensemble, que tu nous éclaires par ta puissance et que tu nous aides à nous attacher à toi et à ta parole. En ton nom. Amen. Avez-vous déjà fait l'expérience d'avoir lu un livre et ensuite être allé voir un film basé sur le livre? Moi, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de faire cette expérience et je préfère de loin toujours lire le livre avant d'aller voir le film, si jamais j'ai l'occasion. Parce que, vous avez peut-être fait cette expérience, on lit le livre plein de détails. On décrit des scènes, des sentiments, des paysages. Et ensuite, on va voir le film. Et là, on se dit, ah mais tiens, ça c'était dans le livre, mais là, dans le film, on n'en parle pas. On ne montre pas. Ah, moi je m'attendais à voir ceci ou cela, et là non, finalement, on reste un peu sur sa fin. On dit, bah, il y a des choses qui manquent là. Ça vous est déjà arrivé? Ou peut-être vous avez entendu un récit, ou vous avez vu quelque chose, et puis vous entendez quelqu'un d'autre raconter la même histoire, et là vous dites, ah, il y a quelques détails qui manquent. Ah, là, moi j'aurais ajouté ceci, moi j'aurais ajouté cela. Et avec ce récit, on a presque, alors je dis bien presque, cette impression. Puisque Jean, il est court dans ce qu'il écrit ici. Vous vous êtes rendu compte que le passage, il n'est pas très long. Et pourtant, Matthieu et Marc vont raconter les mêmes choses, mais vont ajouter des détails supplémentaires quand même assez frappantes, assez frappants. Des choses qui n'étaient pas les moindres d'importance. Et là, on va dire, mais Jean, tu n'aurais pas oublié quelque chose là, tu ne serais pas passé à côté des éléments tellement importants. On pourrait presque le croire. Mais encore une fois, souvenons-nous, quel est le but de Jean? Le but de Jean, c'est de montrer que Jésus est Dieu. Et en sachant qu'il est Dieu, croire en lui pour avoir la vie éternel. Alors, je vais faire référence à plusieurs reprises au passage dans Matthieu, en Marc. Nous ne prendrons pas le temps d'aller voir ces passages. Vous pouvez le faire par la suite si vous souhaitez. Mais sachez que Jean ne donne pas tous les détails, mais qu'il y a quand même certains détails qui sont assez importants qu'on va introduire ici. Alors, revenons au verset 14 parce que, dans un premier temps, il nous faut comprendre où se trouve Jésus, tout au début. Si vous étiez là la semaine dernière, vous savez qu'on vient de sortir de ce miracle des multiplications des pains, des poissons pour 5000 personnes. Et même les autres évangiles nous montrent qu'ils étaient assis un peu en groupe de 100 environ, et c'était une foule immense. 5000 personnes, quand même, c'est toute une foule. Et à la fin, maintenant, verset 14, c'est là où nous commençons ce matin. Ces gens, donc les gens qui avaient vu le miracle, les gens qui étaient présents, qui avaient mangé, qui avaient vu qu'au début, il n'y avait que ces quelques pains, quelques poissons, et après, tout le monde a mangé à sa faim, il y avait même des restes. Ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Alors, c'est extraordinaire. Contre toute attente, la foule ici comprend correctement que Jésus est celui qui devait venir. Et cela est étonnant parce que jusqu'à présent et presque dans toute la suite, la foule, c'est-à-dire les gens en général, vont passer à côté de l'identité réelle de Jésus. Mais ici, ils comprennent, ah, là, c'est quelqu'un de particulier, c'est quelqu'un d'extraordinaire, ça doit être le prophète, ça doit être celui qui avait été annoncé à l'avance. Et ceci montre leur connaissance de ce que Dieu avait déjà révélé. Et je trouve ça extraordinaire, que là, le peuple, cette foule, connaissait les Écritures, avait correctement identifié Jésus comme quelqu'un de spécial, comme quelqu'un envoyé de Dieu, qui devait venir dans le monde à la fin de verset 14. Et ma prière, c'est que les gens autour de nous puissent avoir cette connaissance, puissent comprendre que Jésus est celui qui est venu dans le monde, celui qui est venu de Dieu, celui qui est Dieu lui-même. Mais avec toute cette connaissance, avec cette identification correcte de Jésus, il leur manquait un élément. Et cet élément, c'est le temps. Puisque ce n'était pas le moment convenable pour que Jésus reçoive ce qu'eux, ils voulaient lui apporter. Alors, verset 15 nous éclaire là-dessus, puisque Jésus, bien sûr, il va savoir, est-ce que c'est par sa toute-puissance et son omniscience en tant que Dieu, peut-être. Est-ce que c'est parce qu'il entendait un peu courir dans la foule les murmures, des bruits, comme quoi ils allaient venir l'enlever pour le faire roi? Mais peu importe si c'était par son omniscience qu'il avait en tant que Dieu, ou tout simplement parce qu'il avait compris de quelque façon de la foule qu'ils allaient faire cela, bah, il va se retirer de nouveau sur la montagne, lui seul. Et on peut rester un peu perplexe devant cette situation, puisque si quelqu'un venait vers moi, me dire, bah, Robert, on va t'établir roi. Tu es celui qu'on attendait depuis des siècles, littéralement, et tout. Bah oui, pourquoi pas. Allons-y, faisons l'expérience. Et même les disciples que Jésus avait déjà renvoyés, la foule, tout se dit, on est sous l'oppression romaine, on attend depuis si longtemps celui qui doit nous délivrer, on attend depuis si longtemps celui qui avait été promis, ce serait peut-être maintenant le moment. On a trop attendu, on a été trop sous l'oppression, peut-être Dieu est un peu en retard par rapport à sa délivrance. La foule aurait pu avoir toutes ses pensées, et la foule maintenant voit ce grand miracle. Qui d'autre aurait pu faire une chose pareille que de nourrir 5000 personnes avec quelques pains et quelques poissons? Personne d'autre, si ce n'est, à leurs yeux, bah Dieu. Donc, ils se disent, obligés, cet homme devant nous, il vient de Dieu, ça c'est vrai, et il est celui qui va nous délivrer. Oui et non. Pas de la façon dont eux y pensaient, nous le savons. Et Jésus, parce qu'il savait que son moment n'était pas encore venu, ceci nous renvoie au chapitre 2, où il dit la même chose à sa maman. Il dit, « Maman, mon heure n'est pas encore venue. Ce n'est pas encore le moment. Ben, il va se retirer sur la montagne, lui seul. » Et la foule, mettons-nous à leur place, n'a vraiment pas du tout compris. Et lorsqu'on essaie de nous mettre à leur place, on comprend un peu la déception. Imaginez-vous vous retrouver devant quelqu'un qui a la capacité de faire des miracles et qui répond à tous les critères de tout ce qu'on nous a enseigné depuis des années, depuis toute notre enfance, dont les parents, les grands-parents, les générations avant avaient parlé. Et maintenant, on voit cette personne qui répond à ces critères et on se dit, mais voilà, cet homme, cette personne va nous délivrer, cette personne va agir. Et on attend cela avec impatience et on se précipite un peu et on se dit, mais c'est maintenant le temps d'agir. Et ici, Jésus ne fait pas du tout ce que la foule pense est la meilleure chose. Et n'est-il pas vrai que nous ressemblons à la foule où nous disons, bah, c'est maintenant que Dieu doit intervenir, c'est maintenant où Dieu doit faire telle ou telle chose. Et à nos yeux, cela semble comme le bon moment. À nos yeux, ça semble comme le moment idéal pour que Dieu intervienne, qu'il nous délivre, soit d'une épreuve ou d'autre, ou qu'il agisse, qu'il pourvoie, et on sent que ça tarde, et il semble à nos yeux que Dieu ne fait rien. Et quelle est notre réaction? Ici, Jésus, pour la foule, ne fait rien d'autre que de les nourrir de ce pain et de ces poissons. Il ne va pas chercher la gloire, il ne va pas chercher ce règne, cette autorité que eux, ils voulaient lui donner. Non. Finalement, il va s'isoler. Déjà, ce passage ne nous l'apprend pas, c'est Matthieu et Marc qui nous le disent. Jésus va envoyer ses disciples. Il va les renvoyer de l'autre côté de la mer. Et ensuite, lui, il va prendre du temps pour renvoyer la foule. Et ensuite, il va se retirer seul sur la montagne. Et c'est extraordinaire ce que Jésus va dire. Et encore une fois, on dirait que certains pourraient dire, bah, Jean, tu passes à côté des détails trop importants. Il nous manque du matériel là. Mais voilà pourquoi Dieu nous donne plusieurs évangiles. Ce sont Matthieu et Marc qui nous apprennent que Jésus, sur la montagne, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il dort? Non. Alors même qu'il fait nuit. Est-ce qu'il joue à la console? Non. Est-ce qu'il regarde sur Internet? Non. Non, bien sûr que non. Toutes ces choses n'existaient pas. Il est en train de prier. Et le contraste ici est tellement remarquable. La foule attend que Jésus soit leur roi. Les délivre, les dirige, fasse tout pour eux, leur donne la bénédiction. Et à leurs yeux, Jésus ne fait rien. Jésus les renvoie, plus ou moins vide. Bon, le ventre plein, mais rien d'autre. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Il prie. Et dans nos moments de difficulté, dans nos moments de peut-être incompréhension, dans nos moments où nous avons peut-être l'impression que Dieu ne fait rien, alors que intellectuellement nous savons que ce n'est pas vrai, mais les circonstances font qu'on peut avoir ce sentiment de savoir que ce même Jésus est en train de prier. Et il prie pour nous. Il prie pour vous, il prie pour moi. Jésus est là sur la montagne, il est seul, mais il n'est pas inactif. Il n'est pas passif, non, il est activement dans la prière envers son Père. Il se retire sur la montagne, lui seul. Donc, Jésus ne cherche pas la gloire. Jésus savait que ce moment-là, ce n'était pas le bon moment, ce n'était pas le bon endroit. Le moment viendra, à la fin de son ministère, l'endroit sera correct, ce sera Jérusalem. Mais ici, on est au bord de la mer de Galilée. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas l'endroit. Alors Jésus se retire. Par contre, il reste dans la prière. Et quel exemple pour nous? Parfois, nous avons l'impression de ne plus rien pouvoir faire. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Ben, prier. Nous adresser à Dieu, demander son aide. Et cela nous introduit un peu dans la deuxième partie ici, puisque à partir de verset 16, quand le soir fut venu, alors maintenant on passe de la foule aux disciples, quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Donc Jésus les avait renvoyés, ils sont montés dans une barque, ils ont commencé à faire la traversée de la mer pour aller de l'autre côté. Verset 17, « Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. » Quelque chose qu'ils avaient probablement fait à bien des reprises dans leur vie. Quelques-uns d'entre eux étaient des marins expérimentés, connaissaient le coin, avaient fait cette traversée sûrement des dizaines de fois. Il faisait déjà nuit, donc l'obscurité était là, il fait noir. Jésus ne les avait pas encore rejoints. Le sentiment des disciples, qui, dans leur esprit, pensaient sûrement « Jésus va nous rejoindre, soit il va faire le tour du lac, ou bien il prendra une autre barque, un autre bateau, et puis nous rejoindra. » Mais voilà, ils sont un peu seuls, là. Et verset 18, « Il soufflait un grand vent, et la mer était agitée. » On préfère, n'est-ce pas, un lac calme, sans vagues, pas de vent. Là, tout est calme et tout coule doucement, comme on dit. Mais ce n'est pas le cas ici. Un grand vent, avec la mer agitée, des vagues. Matthieu et Marc vont nous parler de la barque qui est prête même à s'enfoncer. Et verset 19, après avoir ramé, et là c'est vraiment le cas, ramé, le vent contraire, les vagues, environ 25 ou 30 stades, ils ont fait à peu près la moitié du chemin. Ils virent Jésus marchant sur la mer. Et je ne peux même pas imaginer le sentiment des disciples à ce moment-là. Parce que depuis un certain temps, ils étaient en train de ramer. Ils avaient fait ici plusieurs kilomètres. Hein? Imaginez-vous ramer. Bon, ils étaient 12, mais quand même, ramer plusieurs kilomètres. La mer est agitée, le vent est là. Je veux bien croire qu'ils étaient fatigués. Ils se sont dit, mais c'est même pas la peine, on n'arrivera jamais de l'autre bord. Et au milieu de tout cela, ils se posent sûrement la question, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on retourne? Ils se posent des questions, ils discutent. Et puis l'un d'entre eux, il dit, mais regardez, il y a quelqu'un. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Non, mais tu hallucines là, non, c'est pas vrai. Non, mais je te jure, je vois quelque chose. Et puis il commence à regarder et à travers l'obscurité, il voit ce qui ressemble à quelqu'un marcher sur l'eau. Et je vous dis tout de suite, si moi j'étais à leur place, j'aurais eu exactement la même réaction que nous voyons en Matthieu et en Marc. Ils ont peur et ils croient que c'est un fantôme. Ils disent, on voit un esprit là. Et quelque part, c'est normal qu'ils pensent comme cela, parce que qui peut marcher sur l'eau? Personne. Moi, je ne peux pas le faire. Vous non plus. Enfin, si jamais vous pouvez, venez me le dire après. J'aimerais savoir comment. Non, ça ne marche pas comme ça. Non, on va dans l'eau, on s'enfonce, sauf si on sait nager. Mais Jésus marche sur l'eau. Et il vient sur eux, vers eux. Et il va s'approcher de la barque. C'est intéressant, Marc, lorsqu'on lit ce récit, Jésus, il fait semblant de passer à côté d'eux. On se demande s'il ne voulait pas passer un peu inaperçu. Et il passe à côté et ils l'aperçoivent. Ils disent, c'est un fantôme. Et on comprend à la fin de verset 19, ils eurent peur. Si moi, je crois voir un fantôme, même si je ne crois pas dans les fantômes, pour moi, ça n'existe pas. Mais même si j'y croyais et je pensais en voir, on aurait peur, n'est-ce pas? C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est quelque chose qui va nous faire peur. Et les circonstances de la vie, comme on dit, les vagues de la vie, le vent des épreuves, les choses difficiles par lesquelles nous passons, lorsque on essaie de faire face avec nos efforts, on peut avancer jusqu'à un certain point. Comme je disais tout à l'heure, les disciples, ils avaient fait à peu près la moitié du chemin. Ils ont réussi quand même à aller jusqu'à un certain point. Ils ont fait quelques kilomètres en mer, sur ce lac. Mais ils ne pouvaient pas aller plus loin. C'était trop dur. Avec toute leur force, et c'était sûrement des hommes bien habiles, assez forts, qui avaient l'habitude pour la plupart d'entre eux, mais là, ils ne pouvaient plus rien faire. Et nous ressemblons aux disciples par moments dans notre vie, n'est-ce pas? Les difficultés de la vie, parfois on n'en peut plus. On se dit, je suis au bout, je ne peux pas aller plus loin. Ma force est insuffisante. Et c'est exactement là où étaient les disciples. Et je me pose la question, si les disciples ne se sont pas posé la question entre eux, mais où est Jésus? Ils vont se poser cette question à un autre moment, un peu dans des circonstances similaires, où Jésus, cette fois-ci, il est avec eux, mais ils sont sur la mer, et les vagues viennent, le vent arrive, et la barque est prête à s'enfoncer, et Jésus, lui, il dort. Imaginez-vous, il y a des gens qui peuvent dormir n'importe où. Mon grand frère s'en est un, je ne sais pas comment il fait, mais quand c'est l'heure de dormir, il se met quelque part et puis il dort. Bon, tant mieux pour lui, moi je ne peux pas faire ça. Il me faut mon lit bien chaud, mes draps et tout. Bon, voilà. Mais Jésus, là, c'est la tempête et il dort. Et les disciples disent, mais ils vont le réveiller, le secours, mais on meurt, on sera perdu. Ne t'inquiètes-tu pas qu'on va couler? Comme si Jésus ne le savait pas. Et à ce moment-là, Jésus il se lève, il parle au vent, à la mer, et tout s'apaise. Et ici, les disciples, encore une fois, je me demande, parce que ce n'est pas explicite, ni ici, ni dans Matthieu ou Marc, si les disciples se posaient la question, mais où est Jésus ? Ils auraient pu avoir ce sentiment, mais Jésus nous renvoie un peu loin de lui, il nous laisse un peu à nous-mêmes, ne vient même pas à notre secours, il nous laisse faire face à ceci avec notre propre force, mais Jésus, il est où ? C'est maintenant que j'ai besoin de lui, et il n'est pas là. Je n'arrive pas à faire face à ceci par moi-même, et Jésus, il est où ? Et c'est exactement à ce moment-là où Jésus apparaît. Au bon moment, ce n'était pas avant, ce n'était pas après, parce que sûrement la barque aurait coulé. C'était au bon moment, et bien sûr au bon endroit. Ils étaient presque au milieu de la mer. Et là, on voit bien que lorsque Jésus marche sur l'eau, ce n'est pas juste quelques pas, un peu éloigné du bord. Non, non, il est pratiquement au milieu de la mer de Galilée. Donc, un vrai miracle. Personne d'autre n'aurait pu faire cela. Et alors que ses disciples, ils ne savent pas quoi faire, en le voyant, ils ont peur. Verset 20. Jésus va s'exprimer pour la première fois dans ce récit. C'est moi. C'est moi. Et lorsque les disciples ont entendu cela, ils ne se sont pas trompés sur l'identité de Jésus. Vous savez, parfois, on a du mal à reconnaître les voix. Surtout au téléphone, ou du moins moi, quand je prends le téléphone, parfois j'ai du mal à reconnaître les voix. Parfois, je me trompe. Parfois, les autres se trompent lorsque je leur téléphone. Mais il y a des voix qu'on reconnaît tout de suite. Là, on met quelques paroles de quelqu'un et on dit « Ah, tout de suite, c'est telle ou telle personne, n'est-ce pas ?» Souvent des membres de la famille ou des gens qu'on a fréquentés pendant longtemps, ou même des gens avec des voix particulières. Et Jésus dit « C'est moi. » Quelle parole d'encouragement. C'est moi. Et nous pouvons expérimenter cette même chose aujourd'hui dans notre vie. Les difficultés de la vie, il y en aura. Des épreuves, nous en aurons. Nous en avons. Ne mettons pas ça au futur. On en a aujourd'hui. On en a eu dans le passé. La vie chrétienne, la vie avec Dieu n'est pas toujours facile. On fait face aux vagues, aux vents, aux obstacles, au rejet, à l'opposition. Et dans tout cela, si nous essayons de ramer, pour garder l'image ici, de nos propres forces, les bras, très vite, vont devenir fatigués, n'en pourront plus. Et nous aurions beau être des dizaines, voire des centaines, toute cette force-là ne suffirait pas. On pourrait aller jusqu'à un certain point, et certains seraient peut-être plus forts que d'autres, mais personne ne pourrait, par lui-même, aller jusqu'à l'autre bord. Et c'est là où Jésus intervient et il dit « C'est moi ». Et il dit la même chose aujourd'hui pour nous. Si nous connaissons Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, il nous dit « C'est moi ». Et si nous ne le connaissons pas comme notre sauveur personnel, il dit quand même « C'est moi ». C'est moi qui sauve de la condamnation éternelle à laquelle tous sont destinés, en dehors de Jésus-Christ. Mais c'est moi qui sauve, dit Jésus, des difficultés d'aujourd'hui. Il dit, c'est moi, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Alors qu'il y avait de quoi. Le vent, il soufflait toujours. Les vagues étaient toujours là. Mais il dit, n'ayez pas peur. Pourquoi? Parce que le Tout-Puissant, celui qui possède toute la force de l'univers, et même au-delà. Celui qui contrôle tout est avec eux et il est avec nous. Et de nouveau, à la fin de ce passage, on a l'impression que Jean, vraiment, il passe à côté de quelque chose d'extraordinaire. Bon, ce n'est pas le cas, encore une fois, rassurez-vous, Jean, il ne se trompe pas ici. Il n'omet rien, il n'oublie rien. Non, il a choisi ces événements parce que ça allait dans le but que lui s'était fixé. Mais qu'est-ce que je suis content d'avoir les autres évangiles ? Puisque ici, Jean ne parle pas du tout de Pierre qui sort de la barque. Parce que c'est dans ce contexte-là que Pierre va dire, bah, « Seigneur, si c'est toi, demande-moi de sortir de la barque et marcher sur l'eau. » Alors, je ne sais pas ce que Pierre il avait à l'esprit à ce moment-là. Peut-être il pensait, « Non, Jésus ne ferait pas ça. » Mais quand il entend ces mots de la part de Jésus, « Sors, viens vers moi », Pierre a dû se dire, « Aïe, mince, j'aurais mieux fait de garder la bouche fermée. » Mais il dit, « Bon, allez, Pierre, il sort de la barque et c'est un des seuls hommes en dehors de Jésus-Christ qui a marché sur l'eau. » Il marche sur l'eau. Bien sûr, nous connaissons l'histoire. À un moment donné, il regarde le vent, les vagues. Il commence à s'inquiéter. Il se dit, mais qu'est-ce qui va se passer ? Il commence à s'enfoncer. Et il crie à Jésus, sauve-moi. Et Jésus, parce qu'il est rempli d'amour, rempli de compassion, ne dit pas, non mais tu aurais dû me faire confiance quand même. Non mais si tu m'avais fait confiance, tu ne te serais pas enfoncé. Alors débrouille-toi. Ah ben, je vais voir, donne-moi 2 secondes, je réfléchis. Non, il tend la main et il le relève. L'aide à rentrer dans la barque. Jean, il passe à côté de cela, ou il ne le met pas, mais nous savons que c'est dans ce contexte que cette histoire est donnée. Et Jésus, il est avec ses disciples. Et il montre tout son amour, toute sa compassion pour ces hommes qui avaient peur, qui manquaient de foi, mais qui quand même ont voulu le prendre dans la barque. Verset 21. Ils voulaient donc le prendre dans la barque. Et aussitôt, la barque aborda au lieu où ils allaient. Alors, Jean, on a cette impression qui nous donne un ensemble de détails et il essaie d'aller vers un point culminant et on s'attend à un grand événement, une grande révélation, quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Et puis voilà, non, ben, la barque il arrive de l'autre côté et puis c'est fini, c'est tout, voilà. Et on se dit, ben, et alors, moi j'en veux plus, moi je reste sur ma faim. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Et Jean montre ceci, et il le fait de cette façon, parce que le point principal n'est pas la délivrance extraordinaire que Jésus a fait, bien que ce soit quelque chose d'important. Lorsque Jésus délivre, lorsqu'il aide, lorsqu'il intervient, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est un miracle. Et il faut le louer, il faut le remercier pour cela. Mais finalement, ce que Jean veut montrer, en ciblant ces quelques éléments de cette histoire si extraordinaire, c'est que Jésus, lorsqu'il intervient, il le fait parfaitement. Il le fait exactement au moment où il faut et il le fait au bon endroit. Jésus ne se trompe jamais de cible. Jésus ne passe jamais à côté. Jésus n'est jamais en retard. Il n'est jamais en avance. Toujours, en toute chose, il fait exactement ce qu'il faut. Il ne fait jamais de trop et il n'est jamais en dessous. Et à la fin de ce verset 21, aussitôt, comme par miracle, comme si les disciples ne savaient pas tout à fait comment ça s'est fait, la barque aborda au lieu où ils allaient. La mer était calme. Plus de vent, plus de vagues. Uniquement la paix, parce que Jésus était intervenu. Et lorsque nous réfléchissons à notre vie, n'est-il pas vrai que lorsque les choses font mal, lorsque les gens nous font mal, soit délibérément, et ça arrive, et nous sommes dans un monde de péché, de pécheurs, les autres nous font mal, nous nous faisons mal parfois nous-mêmes par nos mauvais choix, nos mauvaises décisions. Nous subissons les mauvais choix, les mauvaises décisions des autres. Il y a des circonstances compliquées, des choses que nous ne gérons pas, maladies, pannes inattendues. Et nous pourrions avoir le sentiment, comme les disciples, d'être au milieu d'une mer en tempête, face à des vents, face à des vagues que nous n'arrivons pas du tout à surmonter malgré notre volonté, malgré notre connaissance, malgré notre attachement à Jésus, parce que les disciples, je suis convaincu, étaient attachés à Jésus. Quand Jésus les a renvoyés, ils ont obéi. Ils ont suivi ce qu'ils lui ont dit. Mais nous sommes parfois comme les disciples, avec toute notre force, on rame et on fait tous nos efforts et ce n'est pas assez. Et on se dit, mais là, je ne m'en sortirai plus. Je n'en peux plus, je ne peux pas aller plus loin. Je vais couler. Et dans ces moments-là, d'avoir cette certitude, parce que Dieu le dit, parce que Dieu le montre à travers la vie de Jésus, qu'il interviendra. Ce ne sera peut-être pas exactement au moment où nous pensons, où nous espérions. À mon avis, les disciples se seraient bien passés d'avoir ramé pendant ces quelques kilomètres jusqu'au milieu de la mer. S'ils avaient pu éviter ça, à mon avis, ils s'en seraient bien passés. Ce n'était pas pour le plaisir qu'ils avaient fait ça, n'est-ce pas? Mais Dieu savait qu'ils devaient passer par cela. Et Jésus, lui, il savait ce qui leur allait arriver en les envoyant de l'autre côté. Jésus ne s'est pas dit, « Ah mince, j'aurais dû leur dire d'attendre ou de prendre le tour. J'aurais pas dû les envoyer par là parce que je ne m'attendais pas à ce qu'ils rencontrent telle ou telle difficulté. » Non! Jésus savait exactement ce qu'il faisait en les envoyant par ce chemin-là. Et Jésus sait exactement chaque situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Si Jésus nous a permis d'être dans telle ou telle situation, cela ne le surprend pas. Il ne s'est pas trompé. Il n'est pas en retard. Il agira. Et s'il n'a pas encore agi dans notre vie, ne baissons pas les bras. Persévérons. Continuons de lui faire confiance en sachant qu'il interviendra. Et puis, comme Jésus dit à ses disciples, n'ayez pas peur. Il y a de quoi avoir peur dans ce monde. Il suffit d'allumer la télé, regarder les reportages, regarder les infos. Et là, vous dites, je ne sors plus de chez moi. Hein. Là, il y a trop de mal dans le monde. Le ciel va tomber, les glaciers vont fondre, on sera tous submergés. Et donc, on ne fait plus rien. Il y a de quoi avoir peur dans cette vie. Et il y a de quoi avoir peur dans notre propre cœur. Même si nous sommes enfants de Dieu, nous restons des pécheurs. Nous faisons de mauvais choix. Nous désobéissons à Dieu parfois. C'est triste et ça ne doit pas avoir lieu, mais c'est une réalité. Et pourtant, dans tout cela, Jésus dit, « C'est moi. N'ayez pas peur. » et face à ce par quoi Jésus va nous permettre de passer aujourd'hui, cette semaine. Gardons cette image dans notre esprit. Nous sommes dans une barque. Peut-être le vent est là. Peut-être les vagues arrivent. Est-ce que je vais faire confiance à Jésus? Est-ce que je vais trouver ma paix, ma stabilité, mon réconfort, mon soutien en lui? Ou est-ce que je vais faire confiance à mes bras en ramant tant que je peux? Ce serait le mauvais choix. Le choix que Dieu veut que nous fassions, c'est de faire confiance à Jésus qui agira, pas avant, pas après, juste au moment où il faut, au bon endroit. Et à ce moment-là, tout deviendra clair, tout sera calme, du moins à l'intérieur. Peut-être les circonstances ne changeront pas, ou du moins pas si radicalement que pour les disciples. Mais la paix que Dieu veut nous montrer et nous donner à travers Jésus-Christ, ça, nous pouvons l'expérimenter aujourd'hui. Et c'est ce que Jésus apporte. Il est digne de confiance. Il est le puissant. Il connaît notre situation. Alors, faisons-lui confiance. Disons-lui, viens dans ma barque. Viens. Aide-moi, je te fais confiance. Alors nous allons prendre quelques instants dans le silence. Nous connaissons les domaines dans lesquels Jésus veut nous apporter sa paix, veut nous aider. Demandons-lui son aide, plaçons notre vie entre ses mains, par la prière silencieuse intérieure. Passons quelques instants dans cette prière et puis je terminerai. Oui, Seigneur, nous te remercions que tu es le puissant, que tu es celui qui apporte la paix, que tu es celui qui connaît toute situation et qui agit toujours au bon moment, au bon endroit, exactement là où il le faut. Merci que tu prends soin de nous. Merci que tu donnes ta paix. Merci que tu interviens. Et Seigneur, que tu nous aides toujours à avoir les regards fixés sur toi, de te faire confiance, de ne jamais baisser les bras, de ne jamais nous confier en notre propre force, mais de nous en remettre entièrement à toi. Et ainsi, il sera évident que c'est toi qui agis, c'est toi qui apportes le calme en nous. Et Seigneur, ainsi que tout l'honneur et toute la gloire te reviennent parce que c'est toi qui l'auras fait. C'est en ton nom que nous prions. Amen.